tous. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Christ est ressuscité. Il est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, Jésus est vivant? Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et on va le louer ensemble. Est-ce qu'il y a une église qui veut louer Jésus ce matin? On va taper dans nos mains. On va chanter « Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. » On y va.
Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché.
On va le refaire.
Il l'a enterré.
Lève-toi, mon âme.
Lève-toi, mon âme.
Parle à ton âme.
Et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi.
En lui mes craintes,
en lui mes craintes n'ont aucune emprise.
Donc mort où est,
donc mort où est ta vie? Ce n'est plus moi qui vis,
qui est-il?
C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière.
Est-ce qu'il y a une église qui est dans la joie? Jésus est ressuscité. Alléluia.
Tout en moi veut t'adorer.
Tous ensemble.
Tout en moi veut t'adorer.
Comme une prière ce matin.
Tout en moi veut t'adorer.
Tout en moi veut t'adorer.
Tout en moi veut t'adorer.
Alléluia.
Passer de la mort à la vie, nous te bénissons. Seigneur, ce matin. Oh, ta puissance, elle est toujours là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tout recommence encore aujourd'hui. Tout recommence encore aujourd'hui pour celui qui n'a plus d'espoir. Tout recommence aujourd'hui parce que tu es non seulement mort, mais tu es ressuscité. Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir. Seigneur, rien ne t'a retenu. Seigneur, nous te louons, ton église te loue ce matin. Tu es digne de reconnaissance. Alléluia, élevons notre Dieu ensemble. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Reçois l'adoration, Père. Tu es le Christ. Il ne te manque rien, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Sois béni, Jésus. Alléluia.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, en toi Christ, notre Seigneur, au seulement et si merveilleux.
Seigneur, cette victoire, tu l'as acquise à la croix pour chacun de nous. Tu l'as acquise à la croix par amour pour chacun de nous. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Seigneur Jésus, merci pour ce sacrifice si précieux. Seigneur Jésus, merci parce que tu as fait la volonté de ton Père. Tu n'as pas renoncé, Seigneur Jésus, mais tu y allais par amour pour chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé. Sois élevé, Seigneur Jésus, parce que c'est par amour que tu as enduré la souffrance. C'est par amour, Seigneur Jésus, que, Seigneur, la présence de ton Père s'est enlevée, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur Jésus, porter tous nos péchés, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on veut te dire merci. Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes rachetés. Merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui nous sommes purifiés. Merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui nous sommes libérés par le sacrifice de Jésus. Seigneur Jésus, merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons vivre ta présence à chaque instant de nos vies. Parce que nous avons été libérés par ton sacrifice à la croix, Jésus. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu l'as fait par amour pour chacun de nous. Seigneur, cet amour, il est tellement immense, tellement grand, c'est impossible, Seigneur, de mesurer l'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Oh Jésus, merci parce qu'aujourd'hui tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Merci parce que la victoire, elle est encore là aujourd'hui pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Jésus parce que tu règne à jamais. Alléluia. Alléluia.
Le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé. Sur ses épaules de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais. La pierre fut roulée, l'amour passé.
Alléluia, on continue à clamer, il est à jamais, il sera. Élevons la voix, acclamons-le notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Merveilleux. Il est celui qui est assis sur son trône, il est le Ressuscité. Élevons nos voix encore, Église de l'Épi. Élevons nos voix pour l'adorer. Et l'agneau élevé, l'agneau sur le trône.
L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou.
Alléluia, Jésus.
Pour t'adorer, toi seul.
Alléluia, dis-lui ce que tu penses. Ce matin, il y a des temps où Dieu veut encore agir. On vient de proclamer qu'il est le Dieu vivant et vrai, qu'il est ressuscité. Et que dans nos vies, même quand nos vies tout semble sombre, quand la mort semble régner, il est le Dieu qui a vaincu la mort. Sur chacune de tes situations, sur chacune des moments par lesquels tu passes, Dieu veut t'encourager ce matin. Il est celui qui est ressuscité. Il est celui qui n'a pas dit que c'était fini. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Je suis celui qui donne vie là où il n'y a plus d'espoir. Et ce matin, il est capable de donner vie là où tu n'as plus d'espoir dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à le confesser et dire, Seigneur, ce matin, je remets ma vie entre tes mains afin que mes situations mortes reprennent vie, afin que l'obscurité soit changée et que la lumière vienne briller dans ma vie. J'ai besoin de toi ce matin. Élevons simplement nos voix encore. Prenons ce temps dans sa présence. Il est celui qui est ressuscité. Seigneur, tu es celui qui est assis sur le trône et qui règne. Celui qui n'est pas limité par nos limites. Limite à nous, mais celui qui nous rend parfait en toi. À toi la gloire, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alors qu'on célèbre Pâques, Dieu nous amène à comprendre que c'est pas simplement un simple souvenir, mais une réalité de vie. Celui qui est ressuscité est vivant. Il est capable d'agir dans chacune de nos situations. Et ce matin, on doit le réaliser ensemble. Tu n'es pas seul. Il est à tes côtés. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Est-ce que tu peux simplement prendre ton voisin à gauche et à droite et commencer vraiment à prier pour lui, à l'encourager dans la prière et lui dire, vraiment, je veux prier pour toi ce matin. Je veux vraiment t'encourager parce que Dieu est là. Est-ce qu'on peut prendre un temps où on prie les uns pour les autres? On célèbre Pâques de cette façon-là, les uns avec les autres, croyant que Dieu est là au milieu de nous. On reprend une dernière fois ensemble.
À jamais tu seras.
Alléluia, Jésus.
L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou.
Une dernière fois, alléluia, on l'acclame. Il est grand. Amen. Amen.
C'est tellement bon d'être dans sa présence. Je veux vraiment remercier l'équipe de louanges qui nous a bénis déjà vendredi soir. Est-ce qu'on peut les encourager? Et qui nous a bénis encore ce matin, et c'est pas fini. On les fera revenir tout à l'heure, mais c'est tellement bon. Est-ce que vous croyez que c'est bon d'être dans la présence de Dieu? Et que quand Dieu est là, il y a des choses qui changent parce qu'il est le ressuscité. Amen. Amen. Wow. Avant de passer à la suite et d'entendre ce que Dieu a déposé sur le cœur de Mathieu, je voudrais vous apporter simplement quelques annonces. Vous savez qu'on a travaillé avec Anne-Marie Husson qui nous a encouragés sur la notion du travail et comment être, voir Dieu dans notre travail. Et pour le groupe C'est Proactif, il y aura une réunion Zoom d'information qui aura lieu le 25 avril 2023 à 20h30. Pour tous ceux qui se sont engagés, qui ont rempli le questionnaire en ligne, et si vous ne l'avez pas encore rempli, vous l'avez reçu à travers la newsletter, n'hésitez pas à le remplir à nouveau. Et on va faire une réunion d'information donc le 25 avril à 20h30 en Zoom. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir vers nous. Deuxième annonce, l'équipe d'accueil. Est-ce que vous êtes au bénéfice de l'équipe d'accueil chaque dimanche? Quand je dis au bénéfice, ça veut dire qu'ils nous font du bien. Vous êtes OK avec ça? Vous savez qu'ils font un énorme travail dimanche après dimanche pour nous entourer, pour nous accompagner, et parfois ils transpirent un peu parce qu'il y a du travail, parce que il y a vraiment un paquet de monde ici à l'église, et du coup on aurait besoin d'avoir des bénévoles qui viennent nous rejoindre dans l'équipe accueil. On a besoin d'équipiers pour faciliter les flux et l'accès à la célébration. On a besoin d'étoffer cette équipe. Vous savez qu'il y a le parking maintenant à gérer, qu'il y a pas mal de choses à gérer en plus, et on aurait besoin d'équipiers. Alors, si vous avez à cœur de nous donner un coup de main dans l'accueil, et l'accueil, c'est pas simplement diriger les gens, mais c'est aussi les aimer, sourire, partager l'évangile à travers les mots, à travers un sourire, à travers un mot. Et vraiment, on a besoin d'aide. Alors n'hésitez pas pour cela, à l'accueil, sur le bureau, sur l'îlot central, vous avez des petites cartes que vous pouvez remplir qui sont spécifiques pour le besoin de l'équipe d'accueil. Alors n'hésitez pas, on a des besoins, on a besoin d'être entouré pour cela. Alors merci à chacun d'entre vous. Enfin, troisième et dernière annonce, nous allons avoir le 13 mai, de 9h30 à 16h30, une journée spéciale pour les adolescents, en particulier pour les parents d'adolescents. On va avoir une conférence avec Luigi Davi, qui est un pasteur, mais aussi qui a rédigé tout un livre sur l'adolescence. Et on est vraiment heureux de l'accueillir au milieu de nous. Il sera avec nous donc le samedi 13 et le dimanche 14 pour le culte. Et il va nous faire une conférence spécifique de 9h30 à 16h30. Alors, je sais qu'il y a des parents d'ados ici, parce que je connais les ados. Les ados, vous êtes là? Ouais. Mathieu a répondu, mais les ados, vous êtes là? Ok, est-ce que vous pouvez dire à vos parents de venir? Ouais, ça serait une bonne idée. Comme ça, ils seront avec nous et ça va nous permettre aussi de pouvoir passer une bonne journée ensemble et de se former. L'adolescence, c'est une phase tellement facile qu'on a tous besoin de se former. On est d'accord avec ça? Ok, donc rendez-vous le 13 mai de 9h30 à 16h30 avec Luigi Davi, et il nous bénira aussi le dimanche matin. Ça va, vous êtes toujours là?
Oui.
Est-ce que vous êtes prêts à entendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ?
Oui.
Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre un message qui va changer votre vie? Est-ce qu'on est enseignable ce matin? Ah, j'ai eu moins de oui là d'un coup. Alors on va rester enseignable, on va laisser la parole de Dieu venir transformer nos cœurs. Je vous propose qu'on prie pour Mathieu, vous voulez bien? On ferme les yeux ensemble et puis on accueille Mathieu. Seigneur, on est vraiment dans la joie ce matin d'être dans ta présence, et on te bénit pour ta présence au milieu de nous, on te bénit parce que tu es là, tu es fidèle. Et on veut te prier maintenant pour que le message qui a été déposé dans le cœur de Mathieu puisse venir percuter nos cœurs. On a besoin d'entendre encore la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Je te prie pour Mathieu, afin que chaque mot soit inspiré, soit encouragé, soit une parole d'encouragement pour ton Église. Merci parce que tu le qualifies et tu l'accompagnes encore ce matin. Merci pour cette matinée bénie. À toi la gloire, Jésus. Amen.
Amen. 1, 2, check, mic. 1, 2. Bonjour à chacune et à chacun. Très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. On est très heureux d'accueillir les enfants. Les enfants, est-ce que vous pouvez lever la main? Tous ceux et ceux qui ont moins de 11 ans, levez la main, bien haut, bien haut, bien haut. Est-ce que les grands enfants peuvent leur souhaiter la bienvenue en les applaudissant, en leur souhaitant une bienvenue à la célébration? On vous aime, les enfants. On vous aime. Ce matin, une petite fille est venue me donner un cadeau. Et je veux le prendre ça comme un encouragement de la part du Seigneur, parce que quand on vient communiquer, quand on vient transmettre la passion de Jésus, ben, on est là, on a l'impression d'être à l'aise, mais à l'intérieur, on parle chinois, vous voyez, c'est... Et elle m'a donné ça, et c'est trop fort, et je voudrais la remercier. Elle m'a donné ce petit feuillet-là, et puis dessus, c'est écrit « La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui,
Ta fidélité est immense. Et franchement, est-ce qu'on peut la remercier? Elle se reconnaîtra. Est-ce qu'on peut la remercier pour cet encouragement? Alors là, il va falloir que tu me suives à la caméra. Hein. J'aimerais vous faire, avec les enfants, une petite illustration de ce que peut être la foi. Croire dans les choses qu'on ne voit pas encore. Je voudrais m'adresser à un enfant qui a moins de 11 ans ici et te dire que par la foi, si tu le veux ce matin, je peux te donner un bon chocolat à manger, il faut juste que tu viennes jusqu'à moi. Qui va venir par la foi? Qui croit que je vais lui donner quelque chose? Bravo ma chérie. Ça c'est la foi. Venez, je vous fais un câlin. Viens, je te fais un câlin aussi. Voilà. Oh, moi un câlin aussi. Vous avez vu, quand on vient par la foi, on est même béni de câlins, n'est-ce pas? La foi. Comment Pâques redonne du sens à ma foi en Jésus? C'est le thème que j'aimerais nous proposer de vivre ensemble ce matin. Au XXe siècle, une jeune fille du nom d'Hélène est invitée pour la toute première fois dans une église voisine de son village pour la célébration de Pâques. Elle est toute excitée. C'est la première fois qu'elle entre dans un endroit où il y a des chrétiens qui se rassemblent. La première fois qu'elle va entendre qu'est-ce qu'ils se disent ces chrétiens-là. Elle va arriver et le pasteur va commencer à parler de la bonne nouvelle qu'a Jésus pour tous les êtres humains. Il va parler de la vie de Jésus, de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Il va notamment insister sur le fait que la pierre, à un moment donné, elle a été roulée et que Jésus est ressuscité. Elle a été impactée, Hélène, impactée par ce message, et ça a commencé à créer en elle toute une réflexion sur le sens de sa vie, le sens de son existence, le sens de l'existence de Dieu. Elle va sortir du bâtiment de l'église et juste en face du bâtiment, elle va observer une petite pierre. Elle va être interpellée par cette petite pierre et alors elle va y aller, elle va la prendre et elle va la serrer comme cela et elle va la mettre dans sa poche. Et cette petite pierre, à chaque fois qu'elle aura des questionnements sur le sens de sa vie, sur l'existence de Dieu, sur des questions profondes, elle se souviendra par cette petite pierre du fait que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Et alors que nous allons parcourir ce matin les quatre scènes marquantes de la passion du Christ, nous prions que ces quatre scènes soient des petites pierres souvenirs qui nous encourageront lorsque nous aurons des choix, des projets de vie à prendre, des doutes, une perte de sens par rapport à notre foi. Quatre scènes marquantes qui, je le crois, peuvent redonner du sens à notre foi en Jésus. Ces quatre scènes sont comme quatre sentiers empruntés par Jésus. Et Jésus nous invite à emprunter nous-mêmes ces sentiers parce qu'elles ont une vertu de redonner du sens à notre foi. La première scène, c'est les rameaux. Dans cette scène, le Christ est présenté comme un roi profondément humble. On lit ensemble dans Matthieu le chapitre 21, le premier verset et les autres. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem sur le mont des Oliviers c'était à peu près à 3 km à l'est de Jérusalem, donc ce n'est pas à côté non plus. Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous y trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin. » Et il les laissera tout de suite faire. Tout cela arriva pour accomplir ce que le prophète avait annoncé en disant, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, humble, monté sur une ânesse et sur le petit d'une ânesse. » Les deux disciples partirent et firent tout comme Jésus le leur avait demandé. Ils ramenèrent l'ânesse et son petit, posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, une grande foule étendit leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches dans les arbres et les étendirent également sur la route. Tous ceux qui marchaient devant Jésus, que ceux qui le suivaient, criaient « Hosanna au fils de David !» Dit autrement, « Fils de David, sauve maintenant !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Quelle scène puissante. Jésus sait que ses heures sont désormais comptées. Il fait sa dernière entrée à Jérusalem. Et sa mise en scène, les amis, est soignée. Jésus veut envoyer un message fort à tous ceux qui sont en train de l'entourer à ce moment-là. Aux détracteurs, aux sceptiques, aux disciples convaincus, aux indifférents, aux opportunistes. Ah, le roi fait son entrée, peut-être que Jérusalem va tomber aujourd'hui. À ce moment-là, Jésus s'adresse non seulement à eux, mais Jésus s'adresse aussi à nous qui sommes en train de lire la scène des rameaux. Et son premier message est très clair. Je suis le roi Messie. Je suis celui qui a été annoncé par les prophètes. Il n'y a point d'autre Messie. Il n'y a point d'autre Messie qui doit venir après moi. Je suis le Messie, un point, c'est tout. Jésus, à ce moment-là, littéralement, est en train d'accomplir une prophétie. Une prophétie, c'est une proclamation d'un personnage biblique, un auteur ou quelqu'un qui a repris les paroles d'un prophète. Et il vient du passé. Et il annonce des choses qui vont se réaliser dans le futur. Et là, on y est. Jésus est en train littéralement d'accomplir une prophétie dite messianique qui concerne le Messie. Tout cela arriva pour accomplir ce que le prophète avait annoncé en disant « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, humble, monté sur une ânesse et sur le petit d'une ânesse. » Vous savez, cette prophétie date de plus de 500 ans avant la venue de Jésus. Avec une telle précision que cette mise en scène ne peut rien être autre qu'un accomplissement de prophétie. En faisant une telle entrée, Jésus affirme clairement, il n'y a pas de débat. Il proclame qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur que les Juifs attendent depuis des siècles, et qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur que notre être spirituel attend de rencontrer depuis longtemps. Sa manière d'entrer à Jérusalem va même susciter des proclamations et des gens vont commencer à faire élever des psaumes dits messianiques. Vous en avez notamment un, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est dans le psaume 118 et c'est un psaume qui est estimé plus vieux que 500 ans aussi. Il y a quelque chose de messianique, il y a quelque chose de prophétique qui est en train de se réaliser. Et Jésus, il est très clair, « Je suis le Sauveur ». Il a un deuxième message quand il fait cette entrée-là. Jésus veut révéler clairement quelle est sa vision de la royauté, quelle est sa vision de l'autorité, quelle est sa vision d'un homme qui doit gérer le pouvoir, qui doit gérer l'autorité. Alors c'est un roi à l'époque, mais comprenez qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'un président, d'un homme, d'une femme politique, qui impacte globalement la société, qui doit gérer le pouvoir. Jérusalem, ne vous méprenez pas mes amis, Jérusalem n'appartient pas aux Romains. Par droit spirituel, par droit universel, Jérusalem est la ville de Jésus. C'est sa ville. Il est le roi spirituel et légitime de cette ville, et pourtant... il monte sur le dos d'une ânesse. Il est célébré par le petit peuple. Il avance sur un tapis de rameaux déposé au sol. Selon certains commentateurs, le fait que Jésus ait choisi d'entrer à Jérusalem sur une ânesse plutôt que sur un cheval, parce qu'à l'époque, c'était plutôt sur un cheval que les rois et les conquérants entraient avec force et puissance. Jésus, lui, il choisit une autre voie. Il choisit d'envoyer au peuple, à chacun d'entre nous, un autre message. Il préfère la modestie et l'humilité. Il souligne la non-violence et le pacifisme de sa mission. Il vient à Jérusalem, non pas pour la renverser, mais pour y apporter la paix. À ce moment-là, Jésus casse tous les codes. Il casse les codes vis-à-vis des Romains conquérants. Il casse les codes vis-à-vis des Hébreux dont certains optent pour la vengeance, le renversement par la violence. Jésus montre qu'il est un roi différent, un roi qui veut apporter la paix plutôt que la guerre et la violence, alors qu'il aurait le pouvoir de soumettre toute la ville et la mettre à genoux avec des myriades d'anges pour dire « Vous devez m'adorer parce que je suis le roi de cette ville. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, j'ai la toute-puissance. » Et ce n'est pas ainsi qu'il va venir se présenter. À ce moment-là, quelle leçon ! Surtout dans notre contexte actuel. Nous vivons dans un contexte où la royauté en France a peut-être disparu, peut-être, mais qui continue à voir défiler des personnes de pouvoir, défiler une société qui est fragmentée, qui est pyramidale. Jérusalem hier, Strasbourg aujourd'hui, nous sommes confrontés à des enjeux politiques, économiques, gouvernementaux, qui sont similaires. Nous sommes confrontés nous-mêmes à la gestion du pouvoir quand nous commençons à avoir un peu d'argent de poche. Demandez à un enfant de 7 ans qui vient d'avoir un billet de 20 euros de vous le donner gratuitement. Enjeu de pouvoir. Nous commençons à gérer le pouvoir à partir du moment où nous commençons à toucher un salaire, à avoir de la notoriété, des responsabilités, des salariés, une équipe, des enfants. On commence à apprendre à gérer le pouvoir. Et c'est là que Jésus nous rappelle avec force notre modèle de foi, Jésus-Christ, ne vient pas s'enrichir en usant de son pouvoir. Il vient se dépouiller pour nous enrichir de la présence de Dieu. Ah, celle-là, elle était trop bonne, je comprends pas, là. Allez. Je recommence, parce que là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi ce matin. Notre modèle de foi, celui en qui vous croyez, même si tout ne va pas toujours bien dans votre vie, même si vous ne faites pas toujours les choses parfaitement, même si vous avez à gérer du pouvoir, vous avez une certaine autorité, votre modèle vous dit ceci. « Je ne suis pas venu, dit Jésus, pour m'enrichir au travers de mes capacités, de mon pouvoir, mais je suis venu enrichir les autres de la présence de Dieu. » Ça, c'est notre Dieu, les amis. Ça, c'est notre Dieu. Quand Jésus est venu percuter spirituellement nos vies, il est venu confronter notre vision du monde, n'est-ce pas ? Notre vision de notre propre vie, notre vision de nous-mêmes. Et une des premières vertus dans laquelle il nous a conduits, c'était l'humilité. Souvenez-vous, vous traversiez une grosse épreuve et vous vous êtes souvenu qu'un Dieu est vivant. Vous avez crié, prié à ce Dieu et le secours vous est venu de l'Éternel. À ce moment-là, vous réalisiez que Jésus est vivant, que Dieu est tout-puissant. Souvenez-vous, un ami à vous qui est venu vous témoigner de l'amour de Dieu. Vous avez saisi tout l'amour de Dieu pour vous. Et vous avez décidé vous aussi de venir à Jésus, de devenir chrétien, de devenir disciple de Jésus. Souvenez-vous, un contact de rue improbable. Quelqu'un vient vous parler de la part de Dieu, vous donne une parole. Et cette parole, elle vous revitalise intérieurement. Vous réalisez votre besoin de Dieu. Dans toutes les situations, peu importe d'où vous venez, comment Dieu est venu chercher votre vie, comment Dieu est venu racheter votre âme, le Saint-Esprit vous a conduit, m'a conduit vers l'humilité. Il y a une petite voix intérieure à ce moment-là qui nous a rappelé que nous n'étions pas autosuffisants, que nous avions besoin de Dieu. C'est ça la conversion, c'est réaliser enfin pour la première fois de notre vie que nous avons réellement besoin de Dieu. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui saisit un pouvoir, c'est quelqu'un qui se met sous le pouvoir de Dieu. Il réalise pour la première fois que Dieu est Dieu et que nous on ne l'est pas. Il réalise que sans Dieu, il ne peut absolument rien faire. Nous avons découvert le Christ. C'est une belle phrase, hein. Mais réalisez cette puissance. Nous avons découvert le Christ, le roi humble qui nous rend humbles. Quelle est la prière d'humilité que votre âme aspire à faire connaître à Dieu ? Quelle est cette prière d'humilité que votre âme aspire à confesser pour reprendre un souffle nouveau, pour retrouver un sens à votre vie ? Est-ce que c'est la prière du roi Salomon ? Dieu, donne-moi une réflexion sage. Donne-moi la capacité de discerner entre le bien et le mal dans les choix de vie que je dois faire en ce moment. Peut-être c'est la prière du publicain. Dieu, je reconnais mon péché et je te demande de me pardonner dans ta grâce. Peut-être c'est la prière de Jésus. Dieu, je ne veux pas, j'ai pas envie, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Quelle prière ! Quelle prière d'humilité ! Laissez-moi vous le dire ainsi. Un des meilleurs sentiers à emprunter pour redonner du sens à notre foi en Jésus, c'est le sentier de l'humilité. Deuxième scène, la couronne d'épines. Et dans cette scène, on y découvre que Christ est un roi qui supporte les souffrances causées par notre péché. La Bible dit ceci, « Ils ôtèrent ensuite ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. » Ils tressèrent ensuite une couronne d'épines qu'ils déposèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Ils s'agenouillèrent ensuite devant lui et se moquèrent de lui en disant « Hé, salut le roi des Juifs !» Bam ! Parce que nous, on lit ça tranquille, hein. Mais là, Jésus est en train d'être passé à tabac. « Salut roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui et prirent le roseau qu'il avait dans la main, signe de l'autorité, pour frapper non pas son corps seulement, mais frapper sa tête. Vous savez, la tragédie de la passion du Christ est que ses plus puissants symboles sont les plus violents symboles. Parce qu'il ne s'agit pas que de symboles. Il s'agit de ce que Jésus a réellement vécu. Jésus passe du statut de roi acclamé à roi humilié. Il passe du statut de roi humble dans l'humilité à un roi humilié, souffrant. Jean Calvin, un réformateur connu, dira, et c'est un bon résumé, la couronne d'épines représente la souffrance et la honte que Jésus a endurée pour les péchés de l'humanité, mais elle représente aussi sa royauté divine, parce que c'est une couronne. Et là, il y a une ironie tragique, et cette ironie, nous la vivons tous en tant qu'êtres humains. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes filles et fils du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et pourtant, dans notre royauté, nous souffrons. Une des grandes erreurs qu'on pourrait faire en tant que chrétien, c'est de refuser certaines souffrances qui vont avoir pour vertu de nous ramener à la personne du Christ humilié. Est-ce que j'aime souffrir ? Absolument pas. La couronne d'épines est considérée souvent comme une image du péché de l'humanité. Dans ce cas-là, de plus blessante, de plus piquante, de plus méchante. Et plusieurs commentateurs insistent sur le fait que la couronne d'épines peut vouloir symboliser la malédiction de Genèse, chapitre 3, verset 18, dans laquelle Dieu dit à Adam que les épines et les ronces pousseront sur la terre à cause du péché. N.T. Wright, qui est un théologien anglican, dira ceci, « La couronne d'épines est un symbole de malédiction de la terre et de la création. Jésus l'a portée sur sa tête pour porter la malédiction à la place de l'humanité. » La couronne d'épines vient rappeler à notre âme que Jésus a déjà porté nos malédictions, nos péchés. Il a tout porté. Cela redonne un sens au pourquoi je l'aime, Jésus. Pourquoi j'ai envie d'adorer Jésus. Pourquoi j'ai envie de le contempler. Pourquoi j'ai envie de le suivre. Parce qu'il a porté mes péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement porter les péchés? On dit souvent, oh viens Jésus, il a porté tes péchés. Laissez-moi simplement nous rappeler ce que veut dire porter les péchés quand Jésus dit j'ai porté vos péchés. Il existe. Et il existera toujours, et jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité, une tension entre le péché et notre soif de vivre la sainteté. Quand vous entendez Jésus a porté les péchés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tension avec le péché. Quand Jésus porte cette couronne, il vit la souffrance que procure cette couronne. Mais cette couronne n'a pas d'emprise sur qui il est spirituellement. Et c'est là que c'est important toujours de se souvenir concrètement. Nous vivons des tensions. Je vais vous en citer quelques-unes. Une colère mal dirigée, non contrôlée, peut pousser au danger de manifester des violences conjugales. Quelle horreur ! L'indifférence envers les autres et envers les problèmes du monde actuel peuvent rapidement endormir l'appel que Dieu a déposé dans vos cœurs. Quand vous êtes indifférent, vous ne voyez plus aux dons et aux talents que Dieu vous a donnés pour faire du bien à ce monde. vous vous endormissez, je m'endors, vous vous endormez. Tu couperas ça à YouTube, s'il te plaît. Vous vous endormez, je m'endors, nous creusons, nous mettons nos dons et nos talents, et cette tension du péché qui est l'indifférence finit par nous faire en sorte qu'on ne peut rien faire pour Dieu, on ne veut rien faire pour Dieu, on ne fera rien pour Dieu. Et nous passons alors à côté d'une vie passionnante, intense, challengeante, mais passionnante. Mentir à sa femme, mentir à son époux, mentir à son enfant, mentir à son parent, mentir à son collègue. Ça va à un moment donné nous ronger intérieurement. Cette tension-là va nous ronger. C'est David qui dira « Jusqu'à ce que je me taisais, mes os se consumaient en moi. » Le mensonge pourrit notre intérieur. Regarder et consommer des images et vidéos dont le contenu nous rend addicts, nous culpabilise, dénature l'image de Dieu dans nos pensées pour finir par nous éloigner de Dieu petit à petit. Nous vivons en tension avec certaines choses, nous vivons en tension avec le péché. Et quand la Bible dit que Jésus a porté le péché de l'humanité, elle n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus de péché ou que nous ne serons plus en tension avec le péché. Elle est en train de nous dire que le péché n'est plus notre style de vie. Elle est en train de dire que le péché n'est plus notre boussole, n'est plus notre modèle, n'est plus notre référence, n'est plus notre maître, n'est plus notre autorité. À n'importe quel moment, vous pouvez applaudir Jésus pour ce qu'il a fait, parce qu'il a fait en sorte qu'il n'y a plus d'autorité du péché sur notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va célébrer Jésus pour ça? Je sais que c'est dur, parce qu'on est en tension, je le sais que c'est dur, parce que vous êtes en train de penser à 30 millions de choses en même temps. La tension est palpable, la tension est là. Le péché nous met en tension, certes, mais avec cette tension, cette souffrance vient comme un déclic, comme un éveil spirituel. On est poussé dans notre conscience à se rappeler de qui nous avons reçu notre autorité spirituelle. Et ce n'est pas de n'importe qui que nous avons reçu notre autorité spirituelle. Nous avons reçu notre autorité spirituelle du roi à la couronne d'épines, qui a souffert le péché du monde pour que vous et moi, nous ne soyons plus sous l'emprise du péché. Le péché dort au seuil de ta porte, mais toi domine sur lui, dit l'Évangile. Et nous avons reçu par la grâce de Dieu cette autorité par le roi à la couronne d'épines. Les regards fixés sur Jésus, nous nous rappelons que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché, mais en tension. Nous nous souvenons que nous avons accès à des armes spirituelles, des cadeaux de Dieu, la prière, la repentance, la louange, le contact avec d'autres chrétiens, la Bible, la paix, le repos. Nous saisissons ces cadeaux. Nous commençons petit à petit à vivre ces cadeaux. Et progressivement, mais sûrement, l'étincelle devient une flamme. Et la flamme devient un feu. La flamme devient un feu. Qui a besoin peut-être que la petite étincelle devienne un feu pour Jésus de nouveau? Souviens-toi du roi à la couronne d'épines. Il a tout porté pour toi. Tu n'es pas défini par ton péché. Tu es défini par Jésus-Christ, le roi à la couronne d'épines. Cette autorité qui vient du roi à la couronne d'épines va nous pousser à dire non. Vous savez, la grande joie que j'ai eue la première fois que j'ai pu dire non quand on m'a proposé de fumer un joint de cannabis. Si vous n'avez pas été fumeur, drogué, vous ne saisirez pas la joie que j'ai eue la première fois, alors que Dieu est venu toucher ma vie, est venu libérer ma vie radicalement, qu'un de mes potes qui croyait absolument pas que j'étais devenu chrétien a dit « Hé Mathieu, comment il est ?» Ça, c'est du réunionnais, voilà, c'est pour les réunionnais. Tu fumerais pas un petit joint? Pour la première fois de ma vie, en 10 ans d'addiction, j'ai pu regarder ce joint et dire « Non, je ne fumerai pas ». C'était la première victoire et j'ai vu que le roi à la couronne d'épines m'a fait grâce, parce que si j'ai pu le dire, c'est parce que lui, il a tout accompli en portant cette couronne sur sa tête. Alors un des meilleurs sentiers pour redonner du sens à ma foi en Jésus, c'est le sentier de la souffrance qui procure notre tension. Un des meilleurs sentiers pour redonner du sens à ma foi en Jésus, c'est le sentier de la souffrance que procure notre tension avec le péché. J'ai réussi à la dire. Cette tension nous rappelle qu'on est bel et bien des enfants de Dieu. Je pense que vous devriez vous inquiéter s'il n'y avait plus de tension avec le péché. Il y a une mort spirituelle quelque part. Vous êtes en tension avec le péché, ça veut dire que vous êtes toujours vivant. Ça veut dire que Jésus est toujours à l'œuvre pour vous sanctifier. Allez, on avance. Troisième scène, la croix. Christ, un roi qui offre sa vie pour les autres et pour moi. Mais aussi pour les autres. Pour moi, mais aussi pour les autres. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix. Ils arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Là, ils lui donnèrent à boire du vin mélangé à de la myrrhe, mais il n'en voulut pas. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restèrent là à le surveiller. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription. N'oubliez pas qu'au-dessus de sa tête, il y a d'abord la couronne d'épines qu'ils n'ont pas enlevée. Ils ont enlevé le manteau, ils ont enlevé le sceptre, mais la couronne, ils l'ont gardée. C'est très important prophétiquement. Parce qu'en mourant à la croix, il fait mourir la couronne du péché. C'est tellement puissant la Bible. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui disait « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». En même temps, deux brigands furent crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, ils secouaient la tête en signe de mépris et disaient « Toi qui avais dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu et descends de la croix. Si tu es un chrétien et que tu dis que ton Dieu est vivant, eh ben t'as qu'à te guérir alors !» Si tu dis que ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant, pourquoi tu passes par cette épreuve alors? Parce que tu es un petit Christ, parce que tu es appelé à être un chrétien, et qu'un chrétien traverse aussi les vallées de la souffrance. Tout a toujours rapport avec Jésus. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi et les anciens aussi se moquaient de lui en disant « Il a sauvé les autres et lui-même il ne peut pas se sauver. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le sauve maintenant s'il prend plaisir en lui. Il a dit en effet « Je suis le fils de Dieu » et ils disent en effet « Nous sommes les enfants de Dieu ». Et pourtant, parfois ça ne marche pas dans le business. Pourtant ça ne marche pas parfois dans les relations familiales. Pourtant, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Non, on est des êtres humains. Et on traverse aussi notre chemin de croix avec Christ pour berger. Pas de problème, dans le sens où un chrétien traverse des épreuves. Les rameaux, c'est une chose. La couronne d'épines et la croix aussi. Ouh, super, passionnant. Tu nous encourages de fou, Mathieu, ce matin. Les brigands, alors la foule, les religieux, et maintenant les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient également de la même manière. De midi à 3 heures de l'après-midi, l'obscurité couvrit toute la région. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelqu'un ici a déjà fait plusieurs fois cette prière. « Mon Dieu !» Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi as-tu abandonné ma famille? Tu es un petit Christ et tu marches dans les pas de ton Seigneur et Sauveur. Et il y a des saisons comme cela où on doit se charger de notre croix. En entendant cela, quelques-uns de ceux qui étaient là s'écrièrent « Il appelle Élie !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et qu'il mit au bout d'un roseau pour le lui présenter à boire. Mais les autres disaient « Attends, attends, nous verrons si Élie viendra le sauver. » Et Jésus, poussant de nouveau un cri d'une voix forte, rendit l'esprit. À ce moment-là, le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombes s'ouvrirent et plusieurs corps des saints morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombes, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et ils se montrèrent à plusieurs. Quelle vision ! L'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour le garder, en voyant le tremblement de terre et ce qui venait de se passer, furent saisis d'une grande peur et dirent vraiment « Cet homme était fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient suivi depuis la Galilée pour le servir Jésus, parmi lesquelles se trouvaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, ainsi que la mère des fils de Zébédée. Évidemment, il y a parfois des passages où on passe par la croix. Mais il y a un moment donné où Dieu se met en œuvre aussi. Et les tremblements qui arrivent ne sont pas les tremblements de l'ennemi, mais les tremblements de Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas celui qui vient à lui. Dieu est fidèle envers ses enfants. Et comme nous l'a rappelé avec force Jérôme, vendredi saint, lors de la soirée de louange, Jésus est mort crucifié à la croix pour toi. Pour toi, il l'a fait mieux que moi. Pour toi et pour toi. Et c'est le message qu'on a besoin d'entendre. C'est le message que vous avez besoin en ligne d'entendre peut-être, que Jésus est mort pour vous. Et il faut se le rappeler encore et encore. Et quand je réalise que Jésus est mort pour moi, je commence un peu à lire la Bible. Je commence à vivre des expériences, des hauts, des bas. Et quand je commence à vivre avec Dieu, je commence à réaliser que finalement, Jésus est mort pour moi, mais pour une cause qui est plus grande que moi. Jésus est mort pour le cosmos. Dans la Bible, le terme « cosmos » est souvent traduit en français par « le monde ». Cosmos est utilisé pour désigner l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire tous les êtres vivants de toutes les cultures et de toutes les époques. Donc quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle, Dieu a tant aimé le monde, c'est Dieu a tant aimé tout être humain, de toute race, de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de toute époque. Ça, ça fait du bien à entendre dans une société divisée à cause des cultures et à cause des nationalités, n'est-ce pas ? J'ai une interprétation personnelle que je voudrais vous soumettre. Je regarde PS, je ne sais pas combien de temps il me reste encore. J'ai une interprétation personnelle. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Je ne suis pas anthropologue non plus. Mais je crois profondément que Dieu a toujours vu l'homme comme égocentré, bien que social. Et pour nous aider à ne pas nous prendre pour des dieux, même quand on devient chrétien, on peut se prendre pour Dieu. Pour ne pas oublier le monde qui nous entoure, Jésus, votre sauveur et le mien, offre sa vie pour plus que toi. Il offre sa vie pour les autres et pour toi. C'est Martin Luther King qui dira ceci. Le Christ nous appelle à sortir de notre égocentrisme et prendre soin de notre prochain, à sacrifier notre propre bien-être pour le bien-être de tous. Et quand on connaît son parcours, on voit qu'il ne faisait pas que parler. Mais il avait compris quelque chose. Son roi est le roi crucifié. Le roi qui a fait don de lui-même pour les autres. Le message du don de soi de Jésus à la croix est notre raison d'être en tant que chrétien. C'est notre destinée, c'est notre appel à contribuer au bien de la société, au bien de ce monde. Et en parlant de cosmos, Jésus est potentiellement en train de parler de vous qui êtes sceptiques au milieu de nous ce matin, ou vous qui êtes en ligne et qui tombez sur une célébration protestante évangélique. Peut-être que le cosmos parle potentiellement d'un collègue de travail, d'un parent, d'un enfant, d'un voisin, d'un inconnu dans le tram, je ne sais. Mais si vous êtes en perte de sens au niveau de votre foi, laissez-moi vous encourager à peut-être vivre un réveil spirituel, un renouvellement intérieur. C'est peut-être l'invitation du roi crucifié à prendre le temps de remettre la croix et le don de soi au cœur de votre projet de vie. Seul, ça peut sembler difficile, parce que certainement vous vous êtes dit « mais je veux servir Dieu, je ne sais pas comment ». Ne repartez pas sans nous donner l'opportunité d'être le maillon de cette chaîne et qu'on puisse vous bénir et vous accompagner. On n'est pas parfait, mais on veut accompagner, on sait quand même un peu accompagner dans la découverte des vocations et au point accueil, laissez vos coordonnées. Et peut-être que l'accueil d'une manière générale est un bon point de départ pour le don de soi. Quand vous accueillez ce plus petit, dit Jésus, c'est comme si vous m'aviez accueilli moi. Je dis ça, je dis rien. Laissez-moi le dire ainsi, un des meilleurs sentiers pour redonner du sens à ma foi en Jésus, c'est le sentier du don de soi aux autres. Dernière scène, promis, Ketsura, c'est la dernière. La résurrection. La résurrection victorieuse. Christ, le roi tout-puissant, de génération en génération. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Puis, il s'assit sur cette pierre. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez pas, vous, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Dans nos épreuves, nous cherchons Jésus. Quand nous avons cette couronne, quand nous avons la croix, nous cherchons le Jésus crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite dire à ses disciples, et je veux vite dire à chaque disciple présent dans ce lieu, Jésus est ressuscité. Je veux vite vous le dire ce matin, Jésus est vivant. Je veux courir et vous le dire, Jésus est vivant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Non, j'ai encore des choses à vous dire, moi, par contre. Les femmes quittèrent le tombeau rapidement, remplies à la fois de crainte et de grande joie. Et parce que forcément, elles devaient être travaillées, en tension. Jésus est ressuscité, mais nous l'avons vu en sang sur la croix. L'humain, la chair et l'esprit, la tension, c'est toujours là dans la Bible. C'est toujours là. Mais la résurrection va venir aussi mettre un grand coup à nos doutes. Les femmes quittèrent le tombeau rapidement, remplies à la fois de crainte et de grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Soudain, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui, lui saisirent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, vous. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Là, ils me verront. » Waouh ! Alors un petit quiz, parce que je sais que vous commencez un peu à vous fatiguer là. Je vais vous faire une citation d'un Alsacien connu. Qui a dit « La résurrection de Jésus est l'expression de la puissance de Dieu ». Oui, les Alsaciens croient dans la puissance de Dieu. Ils croient dans la résurrection. La résurrection de Jésus est l'expression de la puissance de Dieu. Elle est la promesse de notre propre résurrection. Quel grand Alsacien connu a dit cela ? Si vous l'avez, dites-le fort parce qu'on est un peu nombreux. Plus fort, j'entends pas. Albert Schweitzer, yeah. Quand Jésus ressuscite, il pousse l'être humain dans ses retranchements intellectuels, dans ses retranchements spirituels, dans ses retranchements physiques. Comment un mort peut revenir à la vie ? Et toutes celles et ceux qui ont emprunté le sentier des rameaux, puis le sentier de la couronne d'épines, puis le sentier de la croix, ils ont vécu des répercussions de la résurrection de Jésus dans leur vie. Votre conversion est une répercussion de la résurrection de Jésus dans votre vie. Vous voulez savoir si la résurrection est vraie ? Quand vous vous êtes converti, c'était la puissance de la résurrection de Jésus qui vous a atteint. Donc c'est vrai. Qui est un peu fan, n'ayez pas peur parce que je vais lever la main, qui est un peu fan de boxe anglaise ? Levez la main pour celles et ceux qui aiment bien la boxe anglaise, je suis le seul sur 600 personnes ce matin. Levez bien la main, je veux juste voir si j'ai des amis. Ok, je vais vous expliquer alors. Tyson Fury, c'est un boxeur très connu dans le monde de la boxe anglaise. Si on peut projeter ça voilà, ben nickel. C'est moi, mais moi je suis version oui, chez lui c'est la version, voilà. Tyson Fury, il a expliqué dans plusieurs interviews que malgré le succès et la gloire qu'il a connu en tant que champion de boxe, il se sentait toujours vide et insatisfait intérieurement. Tu peux la laisser s'il te plaît, c'est important, merci. Il avait tout pour être heureux. La gloire, le pouvoir, la puissance dans les mains, ce gars-là est un n'importe qui dans la salle. Il avait tout. Et pourtant, il a commencé à se poser des questions. Il était comme vide. Il était toujours comme insatisfait. J'ai regardé quelques interviews de lui. Et à un moment donné, il tombera en dépression. Il va prendre énormément de poids au point qu'il ne pourra plus combattre. Et il va perdre son statut de champion. Et va se déclencher une déchéance sportive, personnelle, alcool, drogue et un certain nombre de choses. Et au fond de son trou, il va alors commencer à chercher quelque chose qui donnerait à nouveau du sens à sa vie. Une raison d'être plus grande que la simple poursuite de la gloire et de la richesse. Un soir, complètement perdu, il va monter dans sa chambre et il va crier sa souffrance à Dieu. Pendant 20 minutes, il dit, il va crier à Dieu qu'il en a marre de cette vie, qu'il en a marre. Il va commencer à lire la Bible, à s'intéresser au christianisme, aux chrétiens, à l'Église. Et en 2018, il va radicalement offrir sa vie à Jésus-Christ. Depuis lors, est-ce que Tyson Fury est parfait ? Non. Mais il parle ouvertement de sa foi. Et il y a une vidéo qui a tourné, une tendance qui a tourné où on voit Tyson Fury qui est arrêté par des journalistes en voiture et dit « Hey Tyson Fury, ça vous fait quoi d'avoir perdu votre titre ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous pensez que vous allez revenir ou quoi ?» Et il dira « Le plus important là maintenant, c'est pas tout ça. C'est que Jésus-Christ est ton sauveur et il faut que tu donnes ta vie à Jésus. » Alors le journaliste dit « Ouais, d'accord, mais concernant ton titre et concernant la boxe et concernant ceci et concernant cela. » Non, Jésus-Christ est ton sauveur, il faut que tu lui donnes ta vie maintenant. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et alors tu seras sauvé. Et la journaliste a parlé chinois. En 2018, il donne sa vie à Jésus alors qu'il a tout perdu. Tyson Fury remportera le titre de champion du monde de boxe en poids lourd en février 2020 contre Deontay Wilder. Et aujourd'hui, malgré ses imperfections, il peut dire qu'il a rencontré le Dieu de la résurrection. Un des meilleurs sentiers pour redonner du sens à ma foi en Jésus, c'est le sentier de la résurrection. Vivre la puissance de la vie de Dieu dans ma vie à moi. La résurrection de Jésus se manifeste encore aujourd'hui. La résurrection de Jésus a encore des répercussions spirituelles et physiques en 2023, même dans l'Eurométropole, même à Strasbourg, même dans un quartier qu'on appelle la Méno. La résurrection de Jésus a emmené des centaines d'hommes et de femmes de tous les âges à réaliser l'amour de Dieu et à devenir des chrétiens passionnés à nouveau. J'ai une dernière preuve de la résurrection de Dieu. Est-ce que vous la voulez ou pas ? Que toutes celles et tous ceux qui ont vécu des grâces de la résurrection de Jésus l'applaudissent dans ce lieu maintenant. Que toutes celles et tous ceux qui ont vécu la grâce de Dieu se lèvent maintenant. La résurrection, qui est né de nouveau dans ce lieu ? Qui est né de nouveau ? Qui est chrétien dans ce lieu ? Lève tes mains vers le Seigneur, on va louer Jésus. Et on va se donner l'occasion de vivre la résurrection de Dieu maintenant. On veut célébrer ce roi. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et dans un moment, nous allons prendre le temps de la prière. Le même esprit qui ressuscite Jésus, il est en train d'agir dans ce lieu maintenant. Alors on loue le Seigneur et peut-être que c'est le moment de répondre à l'appel de Dieu et de dire, puisque le même esprit qui a ressuscité Christ peut vivre en moi, je prends le temps en ce dimanche de Pâques de vivre la résurrection de Jésus dans ma vie. Amen. Alors louons comme jamais peut-être on a loué en un dimanche de Pâques.
celles et tous ceux qui veulent encore inviter le Christ et la puissance de sa résurrection face à un besoin d'humilité, de retour à Dieu, de pardon de péché. Tu traverses une épreuve et cette souffrance te rappelle que tu as besoin du roi et que tu as besoin de la vie de sa résurrection. Tu as peut-être un besoin. Vous aussi qui êtes en ligne, peut-être que là il y a besoin de temps où on puisse intentionnellement prier le Seigneur pour vous. Alors j'aimerais inviter l'Église dans un temps de prière, en élevant ensemble, si vous êtes d'accord, nos mains vers le ciel et en demandant au Saint-Esprit d'intervenir dans des situations où nous n'avons même pas besoin de les connaître. Dieu les connaît. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons te demander que l'esprit de résurrection se manifeste, que des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, peut-être même des enfants qui sont touchés par des épreuves, par des souffrances, par toutes sortes de soucis intérieurs, des pensées sombres, qu'ils vivent ce matin la puissance de la résurrection de Jésus. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dans ce lieu puisse rencontrer le ressuscité, lui donner sa vie, se repentir de ses péchés maintenant et dire « Jésus, sauve-moi ! » Nous te prions vraiment pour que tu parles à chaque cœur dans ce lieu. Nous te prions qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Nous te prions que tu nous aides à traverser, à emprunter ces sentiers, Seigneur. Et que vraiment il y ait un jour nouveau. Comme le dit la Genèse, il y a eu un soir, il y eut un matin et ce fut un jour nouveau. Nous te prions pour une nouvelle naissance. Nous te prions pour un éveil spirituel. Nous te prions pour le pardon des péchés. Nous te prions pour la guérison du corps aussi. Tu n'as pas attendu que des hommes viennent pour commencer à guérir. Tu guéris. Tu es l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui relève. L'Éternel qui libère. Alors nous te prions pour qu'il y ait comme un grand déclic spirituel. Une vie de Dieu passionnée qui se manifeste maintenant. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi d'une manière ou d'une autre. Nous ne voulons pas te commander. Nous te prions, nous intercédons. Et nous chantons Alléluia. Chantons Alléluia ce matin. Loué soit Dieu. Chantons.
Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, la gloire.
Alléluia. Alors que nous restons dans ce temps de prière, ce temps d'adoration, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps particulier maintenant pour terminer ce culte en prenant ce temps de Sainte-Cène. Vous avez peut-être pu chacun récupérer une petite coupelle, et si vous n'en avez pas, l'équipe d'accueil peut vous en donner, il y en a encore à l'entrée. Et sans rappeler tout ce que Matthieu a dit, je pense que simplement il est bon de se souvenir de ce que Jésus a fait à travers le pain et le vin, à travers ce corps qui a été meurtri pour chacun d'entre nous, ce sang qui a coulé pour chacun d'entre nous, et qui nous permet aujourd'hui avec assurance de nous tenir debout, de pouvoir d'avoir un accès auprès du Père. Le voile a été déchiré, nous avons maintenant un accès dans le lieu très saint parce qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi. Je vous invite à ouvrir l'opercule. Et on prend ensemble le pain. Puis ouvrir et partager le vin. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait à la croix. Ton sang a coulé, ton corps a été meurtri pour que nous ayons la vie. Et aujourd'hui, alors que tu te tiens à la droite du Père et que tu intercèdes pour nous encore aujourd'hui, nous pouvons nous tenir debout sur nos pieds avec assurance, avec fermeté, avec autorité. Et nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Ton sang a coulé pour faire de chacun de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour faire de chacun d'entre nous fils et filles du Roi des Rois. Merci pour ton sang. Merci pour ton corps. Merci parce que jour après jour, on peut se souvenir de ce que tu as fait pour nous. Nos yeux sont tournés vers toi, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Je crois que c'est tellement bon de se souvenir de ces choses-là. Et même si on le fait une fois le dimanche, je vous encourage vraiment, chaque matin, levez-vous et dites-vous, Seigneur, si je suis debout, parce que tu m'as aimé. C'est parce que tu me donnes la force. Et si je ne peux pas me lever ce matin, tu vis en moi malgré tout. Si je n'ai pas les forces, tu es là. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu une dernière fois à travers un dernier chant et dire, mais Seigneur, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'un effet de ta grâce. Et c'est parce que tu nous as donné la vie qu'on peut avoir la vie. Vous êtes OK avec ça? Est-ce qu'on peut terminer par un chant qui va encore nous booster? Merci à toute l'équipe de louanges d'avoir été avec nous. Merci à toute la technique d'être derrière. Merci à l'équipe d'accueil de nous bénir et de nous entourer. Merci à tous ceux qui font que ce culte, on peut le vivre dimanche après dimanche. Et on termine avec ce dernier chant qui nous amène encore à louer Dieu. On se lève ensemble pour ceux qui ne sont pas debout. On applaudit toutes nos forces et c'est parti.
Yeah. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin?
vous souhaite à chacun un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Merci à tous les internautes qui étaient avec nous. Bon retour à chacun et à dimanche prochain. Soyez bénis.